mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Fabien, Ludo. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Claude à la technique et Gilles au micro également. Une émission particulière ce soir parce que nous parlerons quand même en deuxième partie d'émission de la loi Macron qui concerne l'article 64 sur la possibilité de pénaliser les journalistes d'investigation dans le cadre des affaires privées, on va dire un peu, voilà. Et en première partie d'émission, nous parlons donc de Syriza, qui a gagné bien sûr en Grèce, avec l'intervention d'Anastasia, qui est grecque et qui fait d'ailleurs une émission sur cette antenne. Et pour finir, je voudrais simplement vous expliquer que normalement, pour la deuxième partie sur la loi Macron, une personnalité de la CGT journaliste va intervenir également par téléphone. Donc on prend cette émission qui va être haut en couleur, comme tous les vendredis. En tout cas, merci à tous d'être là avec moi ce soir. Merci à vous tous de nous écouter. On y va. Alors pour commencer, nous aimerions quand même féliciter le Syriza, le mouvement Syriza, donc on pourrait appeler la gauche radicale, d'avoir gagné en Grèce, qui est quand même une première hein, dans le paysage européen aujourd'hui. Nous espérons bien sûr dans cette antenne tous les journalistes qui sont ici dans cette radio que ça va porter ses fruits et que d'autres pays vont suivre d'autres gauches radicales vont pouvoir suivre au niveau européen pour faire balancer. Pour que la balance aille un petit peu dans le sens d'Europe sociale, on va dire ça comme ça, hein, puisque actuellement c'est quand même ce qui prime, c'est l'ultralibéralisme, hein, et puis bien sûr l'austérité. Et voilà, donc c'est dans cette situation que la France aujourd'hui agit, puisque on a pu voir que les lois qui sont plus ou moins faites en France vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans l'austérité, plus de chômeurs, d'entreprises qui continuent à licencier, plus d'argent qu'on voilà. Enfin, hein, Ludo, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Non, mais écoute, non, c'est une très bonne nouvelle et ouais. Donc on est tous donc on va sortir de l'objectivité de notre radio qui est super objective pour dire que on est effectivement ravis que Syriza, qu'enfin un parti de la gauche et non pas un parti social-démocrate arrive au pouvoir. Enfin bon, alors évidemment il faut voir dans quelles conditions. Puisque il faut rappeler quand même qu'en Grèce le taux de chômage est à peu près de 25%, mais que un jeune sur deux est au chômage, hein, de moins de 26 ans, que le taux de suicide a explosé à Athènes, que les retraités, les fonctionnaires ont vu pour certains leur salaire diminuer par deux, et c'est une cure d'austérité qui dure depuis 4 ans, effectivement, qui n'était pas finie. Manifestement, puisque Syriza devait, la Grèce devait accepter une dernière tranche. Potentielle dernière tranche d'aide contre de nouvelles réformes structurelles. Donc, qui dit réforme structurelle dit effectivement encore des coupes dans l'État social principalement et dans le budget de l'État. Donc, est-ce que sa politique a porté ses fruits? Au bout de 3 ou 4 ans, tout le monde peut le constater, que la dette n'a pas baissé, la dette de Syriza. Et donc, c'est une politique qui faisait juste, en fait, rassurer...
La dette de Grèce, pas la dette de Syriza.
La dette de Grèce, effectivement, oui, j'ai Syriza dans la tête, excusez-moi, camarade... de Syriza. La dette grecque n'a pas baissé et c'est une politique qui finalement a visé plus à rassurer les créanciers. Ça donnait des gages en fait hein, aux prêteurs de la Grèce pour effectivement qu'elle puisse continuer à se financer en fait hein, sur les marchés internationaux. Mais cela étant dit, la dette a augmenté et donc on finit par se demander si l'objectif final n'est pas tout simplement la cure d'austérité en soi, c'est-à-dire la baisse de fonctionnement de l'État, peu importe le prix, voilà. Et donc, on en parlera peut-être plus tard, mais ce qui est quand même important dans le programme économique de Syriza, c'est de rompre ce cercle et donc, dans un premier temps, de faire ce que tous les pays d'Amérique latine font avec le FMI, c'est-à-dire de refuser la dernière tranche d'aide de Syriza, de la Commission européenne et du FMI pour sortir de ce cycle de à la fois de création de dette et d'essayer de par la relance de rétablir les comptes et justement ce qui ne peut se faire évidemment qu'au prix d'un allègement, d'une restructuration de la dette. Donc, l'économiste qui s'occupe de ça a étudié à Harvard, je crois, ou a enseigné à Harvard. C'est un grec, mais voilà, c'est quelqu'un de très très sérieux, et ben, il n'est pas tout seul à penser ça. Et donc, effectivement, la partie la plus dure va être les négociations avec la Commission européenne. Bon, et là, on va voir.
Alors, la BCE a racheté un dixième de la dette des États et apparemment relance la planche à billets. Est-ce que on peut considérer que, comme effectivement la Grèce
n'est pas sûr qu'elle relance la planche à billets.
Ah, tu n'es pas sûr, d'accord.
Non, elle rachète de la dette pourrie.
Oui.
Donc elle émet des titres, mais donc ce qui effectivement aboutit à, indirectement à créer des liquidités, mais enfin.
Mais c'est pas encore.
Ne crée pas ex nihilo des liquidités.
D'accord. Parce que j'ai cru que
elle reprête aux banques. D'accord. Grosso modo, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'elle renfloue les banques.
Oui, d'accord. Elle prête pas au peuple pour embaucher des fonctionnaires, créer des
elle prête aux banques.
Satisfaire les besoins sociaux. Mais par contre, l'opération annoncée là, il y a une semaine, d'ailleurs, comme par hasard, quelques jours, 3 ou 4 jours avant les élections en Grèce, Mario Draghi a annoncé une opération de quantitative easing d'un montant de 1 000 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est quand même de la création monétaire de 1 000 milliards d'euros qui va servir à racheter des dettes, mais pas forcément. Mais ça sera chaque banque centrale qui aura le pouvoir, entre guillemets, de racheter des dettes de son pays. Donc en fait, avec ces 1 000 milliards, ils vont pas en dépenser. Enfin, les Européens, il n'y aura aucune solidarité vis-à-vis de la Grèce. C'est pour acheter une partie des dettes allemandes, françaises, etc., mais pas.
Oui, et puis surtout, il s'agit pas d'acheter directement la dette des États. Mais combien on en est encore pas là, quoi. Mais enfin bon, on verra comment les choses vont évoluer. Mais non, je crois pas. Il s'agit d'émettre des titres. Le rachat, ça veut dire juste un rachat de titres, de dettes pourries. Et puis voilà, mais effectivement, ça montre bien que les choses peuvent changer parfois.
On sait bien, de toute façon, que que la Grèce ne pourra jamais rembourser sa dette, même pas éventuellement les intérêts de sa dette. C'est un peu compliqué.
Actuellement, elle doit débourser 22 milliards cette année. Donc c'est énorme. C'est 22 milliards, je sais pas, même, bon, pour un petit pays comme la Grèce, c'est quand même, c'est considérable, en fait. Hein. Et donc effectivement, la question est qu'elle parvienne à rembourser le service de la dette, mais, au moins, au minimum, c'est ce que, objectif, mais évidemment que la dette elle-même, bon, on en est loin, quoi, bien sûr. Ouais.
D'accord. Alors, peut-être tu voulais réagir sur Ilza et ce qui s'est passé en Grèce aujourd'hui ou...
Oui, ben en fait, c'est d'abord il faut rappeler qu'on est ici autour de la table, en tout cas, on est très content parce que Syriza c'est quand même un parti qui est issu de ce qu'on appelle la gauche radicale. Ludovic, tu parlais de gauche de la gauche. Moi, j'aime pas trop cette expression parce que ça voudrait dire que c'est la gauche, le PASOK également. Or, le PASOK a mené une politique de droite, donc c'est la gauche tout court. Non, il faut arrêter avec cette expression de gauche. Enfin, je comprends, c'est les origines. Les origines sont de la gauche radicale. Mais aujourd'hui, en tout cas en Grèce, c'est partiellement le cas également chez nous, mais en tout cas en Grèce, le PASOK s'est allié avec Nouvelle Démocratie, le parti de droite, des partis d'extrême droite, pour diviser les salaires des fonctionnaires par deux, diviser les retraites par deux. Il y a un SAMU pour 500 km², ce qui fait que quand le SAMU sort, il doit choisir quelle personne sauver et quelle personne doit mourir. Enfin, c'est pas une politique de gauche, ça. Donc les partis qui sont à la droite de Syriza sont des partis de droite. Voilà. Non, ça, c'est pour... Non, mais c'est...
c'est nous sommes d'accord quand même, là-dessus.
Voilà, ça, c'est un fait. Donc, qu'un parti qui, dans son programme, ait des mesures sociales fortes, comme une hausse sensible du SMIC, une réembauche des fonctionnaires licenciés, parce qu'il y a ceux qui ont vu leur salaire divisé par deux, mais il y a aussi ceux qui ont été licenciés par centaines de milliers, etc. C'est un arrêt des privatisations d'infrastructures essentielles pour le pays, comme les ports d'Athènes et du Pirée. Bon, on peut n'être que satisfait de ça. Maintenant, étant donné que la Grèce se situe aujourd'hui, comme nous, dans un espace qui s'appelle l'Union européenne, fait qu'ils vont devoir négocier en s'affrontant. Et c'est là que, bon, il va falloir que nous, à notre mesure, les progressistes européens les aident. Mais le rapport de force va être dur, je pense, ça va être très dur. Ouais. Voilà, donc souhaitons leur bonne chance et aidons-les dans la mesure du possible.
Bah justement, on a Anastasia au bout du fil. Bonjour Anastasia.
Bonjour Gilles, comment ça va?
Comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Donc je te remercie d'avoir répondu à notre appel. Tu es donc grec, tu fais une émission sur la Grèce dans cette station aussi. Tu es où actuellement là aujourd'hui?
Là, je suis à Paris, je viens de rentrer, j'étais allée à Athènes pour voter et pour les derniers jours de la campagne de Syriza, dont je suis membre.
Oui, d'accord.
Et voilà, on a fait la fête.
J'imagine bien, oui, oui. Alors toi, quelle impression tu as eue devant cette victoire? Est-ce que tu penses que ça va pouvoir changer un peu la donne au niveau européen?
Eh bien, oui, ma foi, je suis très optimiste personnellement et je sais que ça ne va pas être simple, que nous avons énormément de travail et il faut être complètement attentif et vigilant, que ce n'est pas juste on a gagné les élections et c'est bon, tout va bien. Ça va être pour au moins une année devant nous. Les temps seront durs, mais il faut tenir. Il faut être derrière le gouvernement. Il faut que le peuple, surtout, s'y tienne et qu'il soit dans les rues et qu'il se manifeste dans les mouvements sociaux. Il ne s'agit pas de déléguer et ça y est, c'est fait. Il s'agit d'être présent et d'être au-devant même du gouvernement. Il faut que le peuple et ses choix puissent guider ce gouvernement. Voilà, c'est ce que je pense.
D'accord.
Mais je crois que c'est bien parti pour. Donc voilà.
Anastasia, oui, une petite question. Parce qu'on l'a vu en France, enfin moi je connais pas trop l'histoire grecque, mais en France, quand la gauche, enfin des partis de gauche sont arrivés au pouvoir, comme en 81 ou plus récemment, on va dire, en prenant des guillemets, mais bon quand même, avec la victoire de François Hollande, ce qu'on appelle le mouvement social, à chaque fois baisse de 3 crans, pour pas dire devient atone, et parce qu'il s'en remet dans la tête des gens, les gens s'en remettent aux représentants de gauche qu'ils ont élus pour changer la vie. Ils estiment que c'est plus indispensable de manifester quand c'est un gouvernement de droite au pouvoir, et quand c'est la gauche, souvent, enfin en France c'est comme ça, ils baissent un peu la garde, si je puis me permettre l'expression. Donc, est-ce que tu n'as pas peur qu'en Grèce, le peuple grec, qui s'est beaucoup mobilisé ces derniers temps, du fait de la victoire de Syriza, oublie un peu d'aller manifester pour aider, en fait, le gouvernement à mener une politique de gauche? Parce que, voilà, c'est ça la question.
Oui, alors, tout d'abord, une introduction, parce qu'il me semble qu'il faut une modification de notre terminologie. Je ne pense pas que la gauche a pris le gouvernement en France avec l'élection de François Hollande et du PS, avec tout mon respect. Il faut changer, et de toute urgence, de terminologie en France, parce qu'il ne faut plus appeler la gauche le PS. C'est une grave erreur de définition. Nous, en Grèce, depuis le début des années 90, on a compris et on a cessé d'appeler le PASOK, le Parti Socialiste Grec, de gauche. Donc, ça soit clair là-dessus. La comparaison que tu fais, du coup, n'est pas tout à fait valide.
Non, mais
aucune comparaison entre le PS et Syriza.
Non, mais je suis à 100% d'accord avec toi. Je veux dire que quand les gens en France, le peuple français a voté pour la gauche, alors prenons l'exemple de la gauche en 81, même à cette époque-là,
en 81,
le mouvement social en 81, on pouvait encore qualifier à cette époque-là le PS de gauche,
oui,
en tout cas dans son programme, ils n'ont pas manifesté en masse pour que ce programme soit appliqué. Donc il y a eu les gens délèguent en fait dans leur tête. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les électeurs de Syriza, eh bien, ils se disent bon, mais puisque c'est nos copains qui sont au pouvoir, à quoi bon continuer à manifester? Enfin, c'est ça la question.
Excuse-moi, le programme du PS a été en partie appliqué en 1980 jusqu'à la rupture, jusqu'à la politique de l'austérité. Mais genre, le cas grec est peut-être très différent.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui a réussi en Grèce puisse se transformer aussi dans d'autres pays, comme l'Espagne, le Portugal et d'autres pays de l'Est, éventuellement, pour justement que la donne européenne soit complètement changée, en fait. Tu penses qu'il y a une possibilité?
Le cas français n'est pas le cas grec. Anastasia, tu me trompes, si je me corrige, mais la situation grecque, en Grèce, c'est quand même beaucoup plus dramatique que la France.
Bien sûr.
Oui, et ce que je veux dire, c'est, d'ailleurs, je pense que je l'évoquais tout à l'heure, c'est que Syriza lui-même, il demande au peuple souverain, sa confiance et son appui quotidien et constant. Et l'appui du gouvernement de Syriza, Alexis Tsipras a demandé cela il y a à peine 10 jours lors de sa campagne préélectorale, et il disait encore que Syriza ne s'appuie pas ni sur les entrepreneurs, ni sur les banquiers, ni sur les propriétaires de médias, ni sur l'oligarchie, ni sur les grandes familles, comme ça a été le cas pour la Nouvelle Démocratie et les PASOK qui ont été au gouvernement depuis 4 décennies. Il s'appuie sur le peuple. Et il n'a ni l'intention, ni la possibilité de tromper le peuple, ni de soustraire aujourd'hui son vote et de l'utiliser après les élections comme chèque en blanc. Il disait qu'il n'a pas la possibilité, Syriza n'a pas la possibilité de tromper le peuple grec parce que Syriza veut être le peuple grec. Donc, évidemment, le peuple des travailleurs, des dominés, des classes exploitées, pas de l'élite dominante. Et si Syriza a été propulsé de cette façon au gouvernement aujourd'hui, c'est parce que Syriza a été présent dans tous les mouvements depuis 2004, en fait, et même bien avant, depuis le début des années 2000 et depuis Gênes. Si on voit l'historique de sa création, c'est un ensemble de petites organisations, de partis politiques et des mouvements sociaux qui ont été soit créés, soit rencontrés suite à ce qui s'est passé à Gênes ou à Florence et qui a en son temps un spectre très large qui va de ce qu'on peut appeler peut-être la gauche des socialistes jusqu'au monde libertaire. Alors, tout ça coexiste en Syriza aujourd'hui.
Alors justement,
ce n'est pas le front de gauche, hein, c'est autre chose.
Tu veux dire que c'est une coalition de mouvements sociaux plus
large,
peut-être plus large
que
le Front de Gauche de
cette semaine. Beaucoup plus large et qui ont arrivé justement parce que la conscience des militants et des participants a mûri, étant donné l'état de guerre qu'on nous a déclaré, c'était avant tout mettre sur le côté les différences et toujours regarder la plateforme commune, les objectifs communs et mettre cela en avant en dépassant les désaccords ou les débats qui sont toujours très vivants, très vifs au sein du Syriza. Ce n'est pas du tout tout à fait défini. Il y a un minimum sur lequel tout le monde est d'accord et ça, ce sont les premières mesures. Qui sont déjà en application.
Alors justement, quels sont les objectifs communs désormais, maintenant que Syriza est au pouvoir?
Alors, tout d'abord, la renégociation des contrats de prêt et de la dette avec pour objectif l'annulation de la majeure partie de la valeur nominale de la dette publique. De sorte qu'elle devienne viable dans le contexte d'une conférence sur la dette européenne et comme cela s'est produit pour l'Allemagne en 1953. Et on veut que cela se répète pour la Grèce en 2015. Donc, l'instauration d'une clause de croissance dans le remboursement de la part restante de la dette, de façon à ce qu'il soit financé par la croissance et non par le budget, que soit accordé un délai de grâce, c'est-à-dire un moratorium pour son paiement et ainsi économiser des ressources pour la croissance et la relance de l'économie. L'exclusion de l'investissement public des restrictions prévues par le pacte de croissance et de stabilité pour une période précise, et l'accord pour un New Deal européen, entre guillemets, d'investissement public pour la croissance. Et l'obtention d'un assouplissement quantitatif de la part de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est la première mesure. La deuxième, c'est un plan national de reconstruction immédiate, avec lutte immédiate contre la crise humanitaire et soutien des petits revenus, et par exemple les petits retraités. Électricité gratuite pour au moins 300 000 foyers pauvres, tickets repas pour celles et ceux qui en ont besoin, un programme d'accès au logement qui est aujourd'hui inexistant, une prime de Noël en tant que 13e mois à ceux qui reçoivent moins de 700 euros par mois, soins médicaux et pharmaceutiques gratuits, diminution de la participation de la durée au prix du médicament.
Donc le retour de l'État
transport.
Le retour de l'État-providence.
Voilà, annulation de l'impôt spécial sur le fiel domestique, par exemple. Et puis des mesures immédiates aussi sur le redémarrage de l'économie et la reconquête de l'emploi. Alors, et qu'une réglementation favorable aux citoyens pour le remboursement de leurs dettes envers l'État, par exemple.
Donc un plan de relance pour la Grèce, voire au niveau européen, et le retour de l'État-providence.
Ou une régulation aussi des créances bancaires précaires par l'application de tout un programme, parce que les gens sont complètement étranglés par l'endettement. Et ensuite, quelque chose qui est très important, c'est la suppression de l'impôt guillotine qui s'appelle ENFIA, impôt unifié sur la propriété immobilière.
D'accord.
Fait qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui risquent de... Enfin, jusqu'à là, la semaine dernière, il y a des gens qui risquaient de perdre leur résidence principale. Hein.
Alors justement, Anastasia, juste une question. C'est une grande victoire, bien sûr, pour Syriza en Grèce, mais ils n'ont pas la majorité absolue. Je crois qu'ils l'ont... C'est à deux voix ou trois voix près, voilà. Est-ce que tu penses que les autres partis vont laisser Syriza travailler ou ils vont mettre des bâtons dans les roues à chaque projet présenté devant les assemblées?
Alors, les autres partis, oui, certainement, sauf... Alors, sachant que chacun a une position différente là-dedans, pour ce parti qui se retrouve au gouvernement, celui qui s'appelle... les Grecs indépendants, qui est un parti de droite souverainiste, mais qui n'a pas été jusqu'ici au gouvernement, donc on peut pas le taxer de corruption, comme c'est le cas du PASOK et de la Nouvelle Démocratie. Bon, ce parti est au gouvernement, donc ça veut dire qu'ils ont été d'accord avec Syriza pour mener ensemble cette première mesure, hein, dont je vous ai annoncé une partie. Sachant qu'il y a aussi la reconstruction institutionnelle et démocratique de l'État dans ce programme. Sur les mesures immédiat, il n'y a aucun souci. Ce parti va suivre puisqu'il est au gouvernement.
Oui, et de toute façon, il vous manque deux députés en tout et pour tout, je crois. Donc,
Oui, il manquait deux députés. Pour pouvoir former un gouvernement autonome. Oui, tout à fait.
Donc, je veux dire, vous avez une marge de manœuvre.
Ce qui est triste, c'est que le Parti communiste, il a été contacté en tout premier, avant de contacter le Parti de la droite. Alexis Tsipras a contacté le Parti communiste grec, qui, lui, a suffisamment de sièges au Parlement et qui aurait pu appuyer son programme, mais ils ont refusé. J'en suis témoin. J'étais au siège à ce moment-là.
Fabien ?
Oui, mais justement, je vais rebondir sur le Parti communiste grec. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, le Parti communiste grec, donc cette branche du Parlement, est favorable à une sortie de l'euro et de l'Union européenne, pour faire court.
Oui.
Et alors que Syriza est sur une ligne qui est, on va dire, équivalente quasiment à certaines parties, je vais pas dire frères ou cousins qu'on a chez nous, qui est sur une ligne qu'on va taper du poing sur la table au niveau de Bruxelles, la BCE, et on va renégocier les traités et on va faire baisser la dette. En gros, est-ce que tu crois que, parce qu'en fait, les doutes qu'on peut avoir, nous, ici... sur la table, je pense que je suis pas le seul. Hein. Moi, j'ai très peur qu'au niveau de l'Union européenne, ce soit plus que difficile de faire changer la donne. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un risque que Syriza échoue à remettre un peu les dirigeants européens dans le droit chemin, les ramener à la raison, si je puis m'exprimer ainsi, et que ça n'amène pas, du coup, à devoir prendre des mesures encore plus radicales, comme par exemple sortir de l'euro.
Bah, écoutez, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, si les gens ne sont pas dans les rues pour revendiquer ce qui a été promis, ça ne va pas marcher. En revanche, si je comprends bien, évidemment, c'est qu'on reste pour le moment dans la zone euro et dans l'Union européenne en espérant que plein de choses vont changer. Si ça ne change pas, eh bien la sortie de l'Europe et de l'euro n'est pas exclue. Et pour ça, vous avez des courants au sein de Syriza qui sont, et vous savez qu'il y a un courant qui est majoritaire, celui qui est représenté par l'économiste M. Dragasakis, qui dit qu'il faut rester au sein de l'Europe et éviter, et un autre qui est minoritaire, mais qui est assez présent, qui est représenté par l'économiste M. Lafazanis et aussi par M. Lapalitza, qui est un parti radical, lui, qui dit qu'il faut sortir. De toute façon, à un moment donné, on va en sortir. Voilà. Aujourd'hui, on se dit, on suit la majorité, évidemment. On essaye de faire en sorte que ça marche à l'intérieur de l'Europe. Mais l'Europe n'est pas un fétiche. Si ça ne marche pas, la Grèce est quand même un pays souverain, indépendant, et peut décider de son avenir. Voilà notre position. On essaie de faire en sorte que ça fonctionne tout en restant dans l'Europe. On essaie de la faire changer. Eh bien, si ça ne marche pas, et si c'est une impasse, eh bien, on va voir ce qu'on fait. C'est très simple. Hein.
Oui, parce que moi, à titre personnel, je suis un peu pessimiste pour faire changer à l'intérieur de l'Europe. Mais bon, je vous souhaite de tout cœur de réussir.
Oui.
Mais si on prend les pays où il y a eu des changements politiques majeurs, genre par exemple le Venezuela, l'Argentine, la Bolivie, ce sont des pays quand même qui ont une souveraineté politique, comme la Grèce, mais également monétaire, ce que n'a pas la Grèce.
C'est clair.
C'est pour moi la grosse difficulté
pour le
du truc.
En tout cas, oui. Anastasia, en tout cas, oui.
C'est sûr que la Grèce toute seule ne pourra pas changer énormément l'Europe, mais si on imaginez l'Espagne en novembre prochain, qui prenne une autre orientation, imaginez l'Italie ou l'Irlande.
Oui, et puis
la France qui puisse commencer à bouger un jour.
Puis Portugal et puis l'Albanie éventuellement.
Et puis surtout le fait que la Grèce sorte de l'euro peut inquiéter tout simplement les dirigeants européens. Hein. C'est pas très bon pour l'euro. Oui, l'euro pourrait ne pas résister.
Tout à fait.
Donc il y a quand même une marge de manœuvre, de discussion.
Écoutez, déjà aujourd'hui j'ai vu que Yanis Varoufakis, le nouvel ministre de l'économie, s'est exprimé lors de conférence de presse avec le président de l'Eurogroupe qui est à Athènes aujourd'hui. Il a expliqué que les électeurs grecs l'avaient mandaté sur la base, enfin le gouvernement l'avait mandaté sur la base d'une intention de coopérer, certes, avec l'Europe, mais pas avec la Troïka. C'est très simplement ce qu'il a dit. La Troïka, qui est formée par l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, ne nous intéresse pas. Et on ne va pas demander l'extension du programme d'assistance financière. Hein. Ça, c'est quand même fort, je pense. C'est un signe très fort de la part du gouvernement.
Oui, c'est sûr. Écoute, Anastasia, nous te remercions d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, nous soutenons bien sûr Syriza et puis nous espérons que ça va marcher. Merci à toi. Je te souhaite une bonne soirée. On va écouter une petite chanson et on prend la parole par la suite. Merci. Hein. Ciao.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
La vie, ça tient dans une...
Et oui, c'était la vie de Henri Tachant, donc j'ai retrouvé son nom, je l'avais oublié tout à l'heure, j'ai retrouvé... très belle chanson, bien sûr, Henri Tachant, comme vous le savez tous, c'est un chanteur de texte et bien sûr un chanteur militant. Nous le saluons par cette voilà, en le diffusant, nous le saluons également. Donc on reprend cette émission, c'est l'émission Mode d'emploi, donc l'émission des chômeurs et précaires sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Nous avons commencé cette émission avec Anastasia pour parler de Syriza en Grèce. Et nous allons reprendre l'antenne, bien sûr, avec le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation de la CGT des journalistes. J'espère qu'il va nous appeler comme prévu pour parler bien sûr de cet amendement à la loi Macron sur l'article 64 qui instaure donc effectivement le secret des affaires, donc qui punirait éventuellement les journalistes d'investigation à des amendes très fortes et des années de prison pour toute information de ce qui serait donnée contraire au principe du secret. Voilà.
C'est 300 de prison et 375 000 euros d'amende.
Mais c'est ce qu'on appelle dans la novlangue un amendement pro-business.
C'est ça, voilà. Ouais. Et c'est absolument, voilà, c'est insupportable. D'autant que ça attaque également, je ne crois, si mes souvenirs sont bons, les syndicalistes et puis également les donneurs d'alerte.
Mais c'est pas que ça attaque, c'est que les syndicalistes et seraient concernés de fait.
Oui,
par ce texte en fait.
Les journalistes se sont fait entendre parce qu'il y a eu une tribune publiée dans Le Monde, co-signée par tout un tas de journalistes connus. Mais évidemment, dans une, au sein d'une société, par exemple, en restructuration, il y aurait des, disons, des magouilles et des fonds de pension, des machins. Si un salarié divulguait certaines informations qu'il venait apprendre suite à des opérations pactaires à des journalistes, le salarié, syndicaliste ou pas, serait lui aussi concerné par cette loi et donc risquerait 375 000 euros d'amende. Et 3 ans de prison ferme, c'est ça?
3 ans, oui, tout à fait. Voilà. Bah, si c'est ferme ou pas ferme, mais prison.
Dans le même temps, c'est dans le même temps, quelques semaines avant, on a quand même, comment dire, passé l'éponge sur les millions d'euros volés à l'État par Eric Woerth, qui vendait aux petits copains l'hippodrome Chantilly.
Non, mais alors, un exemple, hein, c'est que le secret des affaires, bah, donc c'est, là, c'est une tribune dans Libération que je lis et qui est pas signée seulement par des journalistes, hein, mais qui est signée par l'Union générale des ingénieurs. Je vous donne les syndicats nationaux des journalistes, effectivement, la plateforme internationale des lanceurs d'alerte, la Ligue des droits de l'homme, etc. En fait, le secret des affaires, qui est un concept hein, quand même un peu flou, se rapproche en fait du secret bancaire. Or le bon, le secret bancaire, on sait ce que c'est, hein.
Oui,
pas divulguer le compte de ces équipes. Or, eh bien, il faut rappeler que dans les affaires de secret bancaire, enfin, plutôt de fraude, disons, ou de dissimulation fiscale, qui ont été révélées ces dernières années concernant, les banques suisses qui démarchaient des clients en France pour, les inciter à défiscaliser. Alors, en Suisse, eh bien, tous ces lanceurs d'alerte, alors je les cite, hein, Brad Birkenfeld, hein, qui était de UBS, aux États-Unis, Rudolf Elmer, donc alias Julius Baer, qui est en Suisse, Hervé Falcani en Espagne, tous ces gens-là ont été ou condamnés ou doivent s'expliquer au prud'homme sur le fait qu'ils aient rompu en fait la confidentialité avec leur patron, et qu'en clair ils aient rompu leur secret bancaire. Donc, on voit là très clairement que c'est jeter les bases juridiques pour simplement pour permettre, enfin pour poursuivre les syndicalistes qui dénonceraient certaines choses dans leurs entreprises. Je dis bien jeter les bases juridiques. C'est pas, c'est pas dire que forcément les gens seront poursuivis ou pas. Ouais. Mais voilà, vu le climat un peu tendu aujourd'hui, on peut très bien s'imaginer que demain on poursuive un syndicaliste pour des choses voilà pas très claires quoi.
Ah, je crois, est-ce que je t'interromps 2 secondes, Ludo. Je crois que j'ai quelqu'un au bout du fil. Oui, allô.
Allô, oui, bonjour, Jean Tortrain.
Oui, bonjour monsieur. Oui, vous êtes secrétaire général joint chargé de l'organisation à la CGT des journalistes, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'aimerais que vous expliquiez un peu aux auditeurs ce qu'est l'article 64 de cette amende et le 64 de la loi Macron et l'amendement qui donc attaque un petit peu les journalistes d'investigation.
Alors, cet article attaque non seulement les journalistes d'investigation, mais il attaque aussi les lanceurs d'alerte, les syndicalistes, toute personne susceptible de donner des informations à des journalistes. Donc, c'était assez grave et c'est pour ça que nous, en tant que syndicat de journalistes, on s'était mobilisés parce que, évidemment, ça touche là carrément, et c'est unique au monde, dans un pays dit démocratique, c'est la notion du secret d'affaires. C'est-à-dire que cet amendement prévoyait de punir quiconque prenait connaissance, révélait sans autorisation ou détournait toute information protégée au titre du secret des affaires d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Oui, tout à fait.
Alors donc, en introduisant cette disposition dans le projet de loi Macron, la France devenait le premier pays européen pénalisé à divulgation d'informations à valeur économique. Voilà, donc c'est effectivement une victoire d'avoir fait supprimer cet article qui était prévu dans le cadre du projet de la loi Macron qui allait criminaliser effectivement toute personne titulaire possesseur en possession d'informations qui permettrait de dévoiler des malversations ou des informations de type économique.
Alors vous confirmez bien cet article a bien été retiré par le gouvernement.
Oui, jusqu'à nouvel ordre, d'accord. Absolument. Il a été retiré de la loi Macron. Ça a été confirmé par Emmanuel Macron et François Hollande ce matin.
D'accord. Donc, il n'y a pas de chance que ça revienne d'une façon différente dans le courant de la loi.
Ça, c'est des possibilités. Hein, parce que c'est une probabilité, c'est une possibilité. Il faut être vigilant. Pour l'instant, non. Mais effectivement, on sait très bien qu'un grand nombre de dispositions de la loi Macron, qui est toujours de l'avant-projet de loi, d'Emmanuel Macron, sont des des comment dispositions qui étaient déjà dans les cartons de Nicolas Sarkozy et que notre nouveau ministre de l'économie a remis sur le tapis. Non, bien sûr, il est on n'est jamais vainqueur sur ce genre de
Alors, j'ai un de mes collègues qui va vous poser une question, excusez-moi monsieur.
Oui, juste pour être rassuré, parce que là cet amendement est c'était un amendement, non, si j'ai bien compris, à la loi Macron. Enfin, on peut qualifier de terrible ou je ne sais pas comment. Rassurez-moi, c'est bien l'UMP qui l'a déposé.
Alors, ça, je ne sais pas. Probablement que...
Comment ça, vous ne savez pas
Si, vous savez, c'est... c'est des... Oui, allô. Oui, c'est en fait monsieur Urvoas, c'est ça?
Urvoas,
oui, qui est au Parti Socialiste aussi, monsieur.
Oui, président de la commission des.
Président de la commission, oui. Ouais,
au Parti Socialiste, on prévoit maintenant d'emprisonner les syndicalistes, mais moi j'hallucine.
Non, mais. Alors, justement, monsieur. Alors, cette loi est retirée.
Non, attendez, que ce soit quelque chose qui était dans les projets de Sarkozy, c'est une évidence, mais après, ça a été retaquiné par le ministre. Moi, je ne connais pas l'histoire de cet amendement-là. Il est apparu dans la loi Macron, à la grande surprise de beaucoup de gens.
Je pose une question faussement naïve. En fait, je savais très bien que c'est monsieur Urvoas, donc c'est quand même un député socialiste qui, en commission des lois,
absolument,
a déposé cet amendement. C'était pour le signaler aux auditeurs, absolument, pour qu'ils aient l'information.
J'ai juste une question.
D'accord, ok.
J'avais juste une question, mais il semblerait quand même que ce soit copié-collé, si j'ai bien compris, enfin plus ou moins copié-collé, d'une directive européenne qui est en préparation. Et donc, il ne fait qu'anticiper ce qui pourrait revenir par l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Enfin, voilà, est-ce que ça ne vous donne pas quand même des inquiétudes? Alors peut-être que le projet directif n'est pas rédigé de la même manière, peut-être qu'il y a plus de garde-fous, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a quand même un souci là-dessus en tant que syndicat des journalistes, quand même, de pouvoir exercer. Parce qu'une directive européenne, ça se discute pas toujours, quoi.
Non, tout à fait, mais on est vigilant sur cette question-là, et si ça réapparaît dans quelques cadres ce soir, on se battra contre, et j'espère qu'on sera pas tout seul. Mais la levée de bouclier contre cet amendement-là a été, vous avez remarqué, assez générale. Les premiers signataires allaient de la Ligue des droits de l'homme au syndicat de la magistrature, en passant par les syndicats de journalistes et des journalistes connus sur la place publique.
Il y a même le syndicat de la magistrature, les avocats de France qui ont...
Absolument.
Oui, tout à fait.
Absolument.
Ils vont pouvoir ajouter un nom à leur mur des cons. C'est ça.
C'est ça, voilà. Alors, okay. Alors, j'ai juste une question à vous poser. Enfin, parmi d'autres, on a vu donc le massacre qui s'est passé à Charlie, les gens qui étaient dans la rue pour défendre la liberté d'expression et de la presse. Et en fait, dans les cartons, il y avait quand même cette attaque de la liberté de la presse, puisque en fait, on attaque un petit peu par là la possibilité pour les journalistes de faire leur métier, tout simplement.
Oui, et puis surtout, c'est au pénal quand même. Enfin, ah, oui, c'est au pénal, oui. C'est quand même incroyable, oui, oui, cette histoire. Je veux dire, de sanctionner. Moi, j'avais toujours compris que tout ce qui relevait des affaires relevait du droit civil.
Absolument. Enfin,
sauf pour les journalistes, les syndicalistes. C'est.
Oui. Allô?
Écoutez, oui. Nous, on est le syndicat des journalistes depuis l'arrivée de Hollande au pouvoir. On est demandeur d'une actualisation sur le droit d'information des journalistes, sur la protection des sources des journalistes. On n'a toujours pas de réponse. Et l'absence de réponse dans ce domaine-là est une forme de réponse. Les mauvaises langues disent que cet amendement était très, très fortement demandé et voulu par Manuel Valls, et que Macron, au départ, n'avait pas prévu ça dans son projet de loi. Mais effectivement, c'est un amendement liberticide qui prévoyait effectivement de supprimer des libertés dans notre pays. C'est plus qu'évident. Je pense que le massacre de Charlie Hebdo libère un certain nombre de volontés, un certain nombre de comment dire d'envie de ce gouvernement de réprimer et de mettre au pas à la fois les syndicalistes et les contre-pouvoirs qui pourraient s'opposer à lui.
Alors,
c'est plutôt parmi nous, parmi les gens qui nous écoutent et parmi les auditeurs et les gens qui travaillent sur votre radio, je pense que ça ne vous surprendra pas.
Oui. Alors justement, parce que on a quand même vu que justement la liberté de la presse a été plutôt malmenée sous l'époque de Sarkozy, donc hein, je passe les poursuites concernant les journalistes, les demandes demandes réitérées de révéler leurs sources, notamment dans l'affaire Bettencourt d'ailleurs. Hein,
absolument. Ouais.
Et je veux dire, c'est quand même. Alors, c'est quand même le comble finalement qu'un gouvernement qui a quand même été élu sur le changement, enfin sur la différence avec Sarkozy, finalement revienne avec des projets qui sont quand même pas très, qui sont assez, enfin on a presque l'impression un peu voisins quand même. Hein,
et puis, absolument.
Un cadre un peu plus général, le droit des affaires, on ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs le droit des affaires. Vous, est-ce que vous savez vous-même ce que c'est que le secret des affaires?
Vous voyez, oui, on peut le savoir. Oui, enfin bon.
Ah ben, le secret des affaires, nous on le connaît en tant que syndicaliste. Moi, je sais que dans mon entreprise, dans l'entreprise où je travaillais, on recevait membre du comité d'entreprise, on recevait des documents sur lesquels il y avait écrit sur lesquels il y avait le sceau confidentiel, et il suffisait de diffuser ce genre d'informations pour pouvoir être accusé de divulguer des informations qui étaient d'ordre économique et interne à l'entreprise. Il est bien évident que quand on est syndicaliste, quand il y a des infos qui concernent l'ensemble des salariés, c'est notre devoir et notre compétence de les donner au moins aux salariés de l'entreprise et leur faire connaître ce qui les attend quand il s'agit d'un plan social ou quand il s'agit de mise en faillite d'une entreprise. Donc nous on sait ce que c'est que des informations à valeur économique. Ça peut varier de la simple diffusion d'un chiffre d'affaires qui pourrait être considéré ne pas être divulgué, à des informations de type le nombre de personnes qui sont concernées par un plan social. Donc toutes ces infos là ça commence avec des informations de ce type-là.
Alors justement,
et après, ça peut aller dans des choses plus graves du genre malversation et détournement de fonds à l'intérieur d'une entreprise, par exemple.
Alors justement, par exemple, dans la loi, la confidentialité entre guillemets ou le reste de réserve peut être réservé aussi parfois aux membres du CE. J'ai le texte sous le nez. Les membres du CE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ça, on peut comprendre. Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Donc c'est assez flou, mais on peut dire quand même que en l'occurrence pour les syndicalistes, le secret des affaires, d'une certaine façon, s'applique, le droit de réserve s'applique déjà d'une certaine manière. Alors, on voit pas très bien quand même
dans le public principalement.
Le CE, pardon, excuse-moi.
Ouais. Excuse-moi.
Non, tout à fait. Vous avez parfaitement raison de dire que c'est déjà, une réserve sur ces informations. Mais là, le projet de loi projetait de le criminaliser, c'est-à-dire quand on menace d'emprisonnement et d'amende des gens qui divulguent des informations, ça les incite encore moins à diffuser ce genre d'informations. Et je tiens à vous préciser, par exemple, que le droit d'entrave, qui jusqu'à maintenant était soumis pour les patrons à des risques de prison et des peines de prison, dans le projet de loi Macron, on supprime cette disposition-là. C'est-à-dire qu'on supprime la peine de prison, le risque de peine de prison à des patrons qui feraient un délit d'entrave. Alors, il est bien évident que dans la réalité, il y a très peu de patrons qui vont en prison, mais au moins, c'était une menace pour eux de faire attention à ne pas s'opposer ou à ne pas rentrer dans le cadre du Code du travail sur la question du droit d'entrave, du délit d'entrave. Donc c'est deux poids deux mesures. D'un côté, on va criminaliser les lanceurs d'informations, les syndicalistes, les journalistes qui révèlent des informations. De l'autre côté, les patrons, eux ne vont plus avoir de peine de prison ou de menace de peine de prison sur leur tête. Donc, on peut avec ces deux exemples-là montrer de quel côté ce gouvernement penche et avec qui il travaille et pour qui il travaille. J'en donnerai pas plus de détails.
On peut en donner plus, puisque je crois qu'il y a même un article de la loi Macron qui réduit le délai lorsqu'un salarié s'estime victime d'un licenciement abusif ou autre pour se porter au prud'homme.
Absolument.
Voilà. Donc ça c'est un exemple, mais il y en aurait peut-être.
Il y en a plein d'autres.
Voilà, il y en a plein d'autres malheureusement.
Alors, vous avez raison, et la loi. l'avant-projet de loi Macron. Le projet de loi Macron a un certain nombre de dispositions qui sont assez diverses et variées, mais qui touchent à des atteintes au code du travail, à la médecine du travail, comme vous le disiez fort justement, à la restriction des délais pour examiner des situations, à des expertises qui seront plus obligatoires et à beaucoup plus de pouvoir pour les patrons pour mener à bien des plans de licenciement,
Excusez-moi, voilà. Vous qui êtes un représentant de la CGT des journalistes, justement, je voulais vous questionner sur votre profession. Parce que la loi Macron là aura, ça dépend si elle est votée ou pas, un impact, on va dire, considérable, avec beaucoup d'effets négatifs. Et dans les temps récents, même actuels, dans les médias, elle est quasiment passée sous silence. Ne trouvez-vous pas, vous qui êtes un représentant de la CGT des journalistes, que là, il y a un problème de la part de la profession générale, un défaut d'information, quoi, pour le moins, quoi. Parce que je pense, moi, qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas bien perçu ce qu'était la loi Macron. On leur a parlé d'autocar à la télé, mais ils n'ont pas bien, ils n'ont pas compris. Du coup, après, on nous balance des sondages disant que les Français sont favorables, mais tout ça n'est pas très. On vit dans un drôle de monde où les gens n'ont même pas les informations pour juger de lois qui sont votées, de lois qu'on.
Vous avez entièrement raison.
Voilà, et oui. c'est un peu. C'est inquiétant, quoi. C'est inquiétant.
Il y a eu quand même Il y a eu quand même quelques articles dans le Canard Enchaîné, dans le Libération,
limité,
le Monde Diplomatique, le Monde, etc. Mais c'est vrai que c'est très limité, oui. Pardon.
Oui, c'est limité. C'est limité. Et en plus, la loi est tellement complexe et touche à tellement de choses que quand il s'agit de résumer dans 22 minutes à la télé ou dans des médias, on va dire, avec une rapidité ou avec très peu de possibilités de discuter et d'amener des argumentations ou des contre-argumentations sur ce terrain-là, et ben, les journalistes, par exemple, se sont fixés sur le travail du dimanche et le travail de nuit, qu'on appellera maintenant d'ailleurs, qui est rebaptisé travail de soirée, ce qui est fortement indicatif de la façon dont on considère les gens qui travailleraient de 9h à minuit, par exemple, de 21h à minuit, comme du travail de soirée, plus comme du travail de nuit. Et effectivement, cet aspect-là a occulté tous les autres aspects de la loi Macron qui sont sinon aussi dangereux, au moins plus grave et une vraie catastrophe pour le monde du travail, pour les représentants du personnel et pour les salariés par la même. Effectivement, non, il vous a raison. Mais la difficulté de se battre contre ce type de projet, c'est qu'il touche à tellement de choses. Alors on a vu les huissiers et les notaires dans la rue, mais les manifestations de travailleurs sur le projet Macron ont été pour l'instant peu nombreuses et peu suivies.
Mais bien sûr, moi ce que je voulais dire, c'est que le traitement de l'information de la part des grands médias est pour le moins défaillant, en l'occurrence pour ce qui est de la loi Macron. Parce que là, vous parlez par exemple des notaires. Bon, les notaires, c'est une profession, chacun sait, où quand on est notaire, on gagne très correctement sa vie. Donc les médias ont pointé le fait que le gouvernement avait un projet de loi pour attaquer un peu des privilégiés, entre guillemets, sans expliquer. Moi, j'ai vu aucun journal télévisé, aucun article de grand journal qui expliquait que même si ça allait attaquer un petit peu le pouvoir d'achat des notaires, ça allait aussi pénaliser les gens qui passaient les actes notariés par leurs droits, etc. Ça n'a pas été expliqué, quoi. Donc, vous voyez, moi, je suis assez catastrophé par le traitement médiatique, là, qui, en plus, passe dans un... fallait passer quelque part et sous l'assommoir du fait des événements récents qu'on a connus en France. C'est inquiétant.
Non, mais vous avez entièrement raison. Mais alors là, on touche à des problèmes plus profonds qui sont la constitution, l'origine et les types de propriétaires des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble de la presse écrite est aux mains ou des marchands d'armes dans ce pays, ou des grands industriels, des industriels du luxe d'ailleurs. Là-dessus, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Je pense par exemple au film de Balbastre qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, que vous connaissez probablement,
oui, mais si on peut,
qui explique ça par le détail en expliquant que, évidemment, une info aux mains des représentants de la bourgeoisie, du patronat et des marchands d'armes et des grands industriels, elle a aucun intérêt, elle ne dévoilera jamais ou avec difficulté pour les journalistes qui travaillent dans ces organes de presse là ces aspects-là. Et là-dessus, on pourrait répertorier le nombre de d'affaires qui devraient être traitées ou qui devraient être analysées de façon correcte et qui ne sont pas faites, parce que c'est pas de la faute directement des journalistes. Les journalistes, ils sont des salariés comme d'autres dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs d'activité, qui ont des pressions de leur direction sur ce sujet-là, mon vieux, ça nous intéresse pas que tu le traites, et qui leur font comprendre que si ils s'opposaient à ces décisions-là, c'est pour ça qu'on se bat nous aussi au syndicat des journalistes pour qu'il y ait une possibilité d'indépendance des journalistes avec des mesures qui devraient être prises par un gouvernement qui se dirait démocratique, qui protégerait les journalistes, et c'est pas fait. Donc effectivement là-dessus, il y a un vrai problème de fond que nous, tant que le problème d'une presse indépendante ne sera pas résolu, seuls de rares organes de presse, et vous les connaissez comme moi, se permettent de sortir des affaires régulièrement. Et c'est toujours les mêmes. Ça va du Canard Enchaîné en passant par Mediapart, mais c'est encore une fois, ce sont des médias qui sont minoritaires et qui ne représentent pas l'ensemble de la presse et de ce qui est lu par la majorité des lecteurs, en fait.
Minoritaire et voilà. Indépendant.
Minoritaire et indépendant, oui.
Minoritaire
et indépendant, c'est le fond de.
Oui, et indépendant, absolument.
Oui, oui. Bah écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Sachez que l'antenne est ouverte, vous pouvez intervenir n'importe quand pour donner des informations si jamais les choses revenaient sur la table. Hein.
Absolument.
Vous êtes ici chez vous, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, les journalistes amateurs que nous sommes et bénévoles, militants, on vous soutient évidemment dans votre combat pour la liberté de la presse. Hein, ça va de soi, c'est pour ça qu'on a voulu vous inviter.
Voilà. Un grand merci.
Voilà, merci beaucoup à vous.
Moi, si je puis me permettre, un conseil aux journalistes qui sont victimes de pression, c'est de se syndiquer.
Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Et peut-être à la CGT.
Ils ont le choix en démocratie. Voilà.
Tout à fait, vous avez raison.
Merci beaucoup à vous et bonne soirée à vous. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. Bon, voilà, donc cette émission se termine. Je vous remercie, messieurs, dames, de l'avoir suivi. Merci, messieurs, de l'avoir faite avec moi. Je vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais plus. En tout cas, merci, bisous. La semaine prochaine, voilà. Oui.
On n'avait pas dit qu'on présentait nos condoléances à la famille du roi Fad, là.
Ah oui, non.
On n'a pas eu le temps.
Enfin, bien, c'est pas le cas.
C'est pas grave.
En tout cas, bisous aux filles et poignées de mon garçon. Merci. Ciao.
Gros bisous aux filles.
Voilà.
Il est midi du mat et moi je me réveille. Ça fait tôt pour un héros, mais faut que j'y aille. Qu'est-ce que je mets ce matin? J'ai mon costard en laine.